Bonjour à tous. C'est bien pratique ce petit écran. Je suis heureux de vivre ce temps de culte avec vous, dans cette église que je connais un peu, en tout cas je connais quelques-uns d'entre vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement, donc je m'appelle Philippe. Je suis ici avec celle qui est ma femme depuis 3 semaines, Damaris. J'ai étudié durant 3 ans à l'Institut biblique de Nogent. L'an passé, j'ai fait un stage pastoral à Nantes. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec ma femme en région parisienne. Elle pour continuer ses études à Nogent. Et puis moi pour continuer à servir le Seigneur dans différentes missions qu'il me confie en ce moment. Et je vous remercie pour votre invitation. Votre invitation à prêcher la parole de Dieu. Que le Seigneur, effectivement, nous parle cet après-midi et que son esprit nous convainc de ce que nous avons à changer dans notre vie. YOLO. Vous avez peut-être déjà entendu ce slogan dans la bouche des jeunes. YOLO. You only live once. On ne vit qu'une fois. Les jeunes l'utilisent généralement avant de faire une chose complètement stupide, complètement débile. J'ai trouvé cette définition sur un site qui donne ensuite comme exemple de bêtise fumer un joint. Puisqu'on ne vit qu'une fois, pourquoi se priver de la liberté de faire ce que l'on veut, y compris de ce qui n'est pas bon? À côté de ça, j'ai lu il y a à peu près un an dans un article les propos de Bernard Tapie, actuellement très malade. Et il déclare « La vie est trop belle, mais n'attends pas d'avoir perdu la santé pour te rendre compte qu'elle est essentielle. » Quoi que ce soit que nous puissions penser de Bernard Tapie, nous voyons qu'il réagit comme tout autre homme face à la perspective de la mort. Et face à ces deux visions, que dit alors la Bible sur la vie que nous sommes censés mener ici-bas? Cet après-midi, nous nous arrêtons sur le psaume 90 que nous venons de lire. Et l'auteur de ce psaume est Moïse, l'homme de Dieu, celui qui a conduit les Israélites, alors esclaves, hors du pays d'Égypte. C'est lui qui a communiqué à ce même peuple les lois de Dieu. Pourtant, combien de fois a-t-il dû intervenir auprès de l'Éternel ? Pour que ce dernier n'extermine pas ce peuple tellement désobéissant. Cet après-midi, je ne vais pas aborder tout le psaume, mais seulement les versets 7 à 17. Et permettez-moi juste de résumer les premiers versets que nous venons de lire. L'auteur met en contraste, d'un côté, l'éternité de Dieu, et de l'autre, la brièveté de la vie humaine. Dieu est éternel, et cela bien avant la création. Mais l'homme, nous signale Moïse, l'homme est éphémère. Sa fin a été décidée par le Créateur. Et le caractère fragile de sa vie, eh bien, justifie la comparaison de l'homme à de l'herbe qui fleurit le matin et qui se fane et se flétrit le soir. Pour en revenir aux Israélites, leur rébellion contre Dieu les a conduits à se voir refuser l'accès à la terre promise. Cette génération qui est sortie d'Égypte est bel et bien destinée à mourir dans le désert. Et ce ne sont pas eux, mais leurs enfants, qui gagneront la terre de Canaan. Et Moïse le sait. Et c'est sans doute dans ce contexte particulier qu'il écrit cette prière, cette méditation sur la brièveté de la vie. Et nous voyons une progression dans ce psaume, dans cette prière. Nous passons d'un tableau sombre de la vie humaine qui est soumise par Dieu à la brièveté, des versets 7 à 11, à un tableau lumineux où la vie reprend des couleurs avec cette foi en la faveur de Dieu. les versets 13 à 17. Et entre ces deux tableaux, nous avons une sorte de charnière au milieu, autour de la sagesse, au verset 12. D'après ce psaume, comment devons-nous mener notre vie selon Dieu? Eh bien, je vous propose de nous focaliser sur trois considérations. Trois choses dont nous devons tenir compte pour notre vie ici-bas. Premièrement, que la colère divine est un sujet très sérieux. Ensuite, que gérer son temps avec sagesse, c'est mieux. Et enfin, toute notre vie dépend de la grâce de Dieu. Voyons ensemble cette première considération. La colère de Dieu est un sujet très sérieux. Dans les versets 7 à 11, Moïse a fait le lien entre la brièveté de la vie et la colère de Dieu. Et à cinq reprises, l'auteur fait mention de la colère divine. C'est loin d'être un thème populaire dans les églises. On préfère plutôt parler d'un Dieu d'amour, lent à la colère et riche en bonté. Et tout cela est vrai. Dieu est lent à la colère, et heureusement pour nous. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se met jamais en colère. Et cette colère, d'après ce que nous décrit le verset 7, est effrayante. Et plus d'une fois, Moïse et le peuple d'Israël ont été témoins de la manifestation de cette colère. Par exemple, un jour, alors que le peuple se plaignait pour la énième fois de Moïse et de son frère Aaron, dans sa colère, Dieu a fait périr par un fléau près de 15 000 Israélites. Combien le sujet de la colère de Dieu est à prendre au sérieux. Il y a une autre raison pour laquelle la colère de Dieu n'est pas un sujet très populaire. Lorsque nous parlons de colère, nous en avons souvent une représentation négative. Avec la colère de Dieu vient le châtiment. Nous considérons généralement la colère comme une émotion négative. Et pour certains d'entre nous, peut-être, nos parents nous ont appris à réprimer cette colère, à ne pas l'exprimer. Et c'est vrai que parfois, notre colère n'est pas du tout justifiée. Mais pour Dieu, les choses sont complètement différentes. Dieu a toujours une bonne raison d'être en colère. Quand nous observons le monde d'aujourd'hui, le mal que l'homme peut commettre, Dieu n'a-t-il pas des raisons de se mettre en colère? Pensez à l'actualité. Meurtre, viol, actes de pédophilie, exploitation des plus démunis, trafic humain. Et la liste est longue. Oui, Dieu a de bonnes raisons d'être en colère contre toutes ces injustices. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, parle aussi de cette colère divine contre les hommes. Dans l'Épître aux Romains, il va leur dire « En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. » Vous voyez que le thème de la colère est bien présent à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et a fortiori, c'était aussi le cas au temps de Moïse. Si nous revenons à notre texte, verset 8, « Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. » Comme nous pouvons le constater, quand Dieu se met en colère, c'est toujours en lien avec le péché. Rien dans nos faits et gestes, dans nos paroles, dans nos pensées n'échappe au Seigneur. Nous ne pouvons rien lui cacher. Il connaît toutes nos fautes. Dieu est saint, parfait, et sa loi est parfaite. Mais l'homme a choisi de lui désobéir. Nous avons choisi de lui désobéir. Or, Dieu est juste. Et il ne peut admettre que le mal soit impuni. Depuis la chute, le salaire du péché a toujours été la mort. tous nos jours disparaissent par ta colère. Oui, la colère de Dieu, provoquée par le péché de l'être humain, a pour effet terrible une vie écourtée dans sa durée. 70 ans, tout au plus 80, d'après Moïse. Alors aujourd'hui, cette espérance de vie nous semble tout à fait ordinaire. Mais pourtant, cela semble peu de choses par rapport aux 1000 ans évoqués au verset 4, qui pour le Seigneur sont comme un seul jour. 70 ans, 80 ans, c'est peu de choses parce que la vie s'achève un jour sur terre. Peine et misère, tels sont les termes qui résument la réalité d'une vie qui a pour seul horizon la mort. L'homme s'agite et met de l'énergie dans ses projets, mais la mort ternit ses plans et rend la vie bien dérisoire. Et en ce sens, nous subissons tous les effets de la colère de Dieu, chrétiens comme non-chrétiens. Après tout, les croyants sont aussi touchés par la mort, survenue avec l'entrée du péché dans le monde. Certains objecteraient peut-être, mais est-ce que Jésus ne nous a pas délivrés de la colère de Dieu en mourant à la croix ? Oui, Jésus a effectivement subi le châtiment à notre place. Le châtiment que méritaient nos fautes. Et il nous a effectivement délivrés de la colère, mais il est précisé de la colère à venir, celle qui s'exprimera au moment du jugement dernier. De cette colère à venir, en effet, ceux qui suivent le Christ n'ont rien à craindre. Et c'est ce que nous lisons de nouveau dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. Puisque nous sommes maintenant déclarés justes, grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Et dès aujourd'hui, bien que concernés par la mort physique, ceux qui placent leur confiance en Christ sont déjà réconciliés avec Dieu. Et Dieu ne les voit plus comme des ennemis, alors que c'est le cas lorsque nous ne décidons pas de le suivre. Dans Colossiens, au chapitre 1, versets 21 et 22, nous lisons cette même idée. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Revenons à notre psaume, au verset 11. Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due ? Sous-entendu, personne. Il s'agit d'une question rhétorique. Connaître la colère de Dieu ne signifie pas ici l'expérimenter, mais plutôt en prendre toute la mesure. Comprendre pourquoi Dieu est en colère. Et le mot hébreu qui est traduit ici par « courroux » est un terme spécifique pour désigner une colère ardente, une colère agissante. Et nous avons déjà évoqué les manifestations de cette colère. D'après ce verset, connaître la colère divine est étroitement lié à la crainte de l'Éternel. Comprenez le profond respect que nous devons à Dieu. En effet, celui qui craint le Seigneur comprend pourquoi le Seigneur est en colère. Et le croyant fait le rapprochement avec le péché, avec son propre péché. Craindre Dieu, c'est le respecter suffisamment pour ne pas pécher contre lui. Et nous retrouvons cette même idée dans le livre des Proverbes. Lorsqu'on craint l'Éternel, on déteste le mal. Aujourd'hui, qui prend vraiment au sérieux la colère de Dieu ? Qui craint réellement le Seigneur? Qui fait ce rapprochement entre la brièveté de notre vie et notre péché? La vie est courte. Et cela doit nous amener à réfléchir. Et surtout à ne pas prendre la colère de Dieu à la légère. Comme nous l'avons lu au verset 11, est-ce que nous mesurons ce qu'est l'intensité de la colère de Dieu? Est-ce que la crainte de Dieu te saisit au point que tu ne veux pas lui déplaire? Quand cette période de rentrée, tu fasses le choix de craindre Dieu dans ta marche avec lui. Heureusement, Moïse ne s'arrête pas à ce tableau sombre de la vie, et j'ai même l'impression d'avoir un peu plombé l'ambiance. Au cours de sa prière, il demande à Dieu, pour lui et pour son peuple, d'être enseigné. Enseigné sur ce qu'est une vie menée avec sagesse. La brièveté de la vie, c'est vrai, est l'effet de la colère de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à craindre Dieu et à mener avec sagesse notre vie. Les deux vont ensemble. Alors oui, gérer son temps avec sagesse, c'est mieux. C'est mieux, mais ce n'est pas toujours facile. Comment faire? Savez-vous que sur une période de 70 ans, nous passons en moyenne 24 ans à dormir? Alors certains plus, certains moins. Nous passons 6 ans, alors à pas à dormir mais à manger, pardon. C'est toujours une moyenne, 5 ans à prendre les transports. Et concernant les loisirs, il paraît que nous consacrons 8 ans. Mais qu'en est-il de notre vie spirituelle? En voici les chiffres. Une personne qui participe à un culte tous les dimanches durant 1h30, comme c'est la moyenne, et qui prie 10 minutes par jour, n'aura consacré qu'un peu plus d'un an à ses activités sur 70 ans. Quel contraste. Mes amis, plus que jamais, nous avons besoin de prier comme Moïse. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Et peut-être la sagesse de moins dormir. Je ne sais pas. Bien compter nos jours, parce que nous savons qu'ils sont peu nombreux et que la vie est brève. Nous l'avons dit. Et de ce fait, le temps est précieux. Et chaque journée de notre vie compte. Le fait de considérer la valeur du temps dont nous disposons nous conduit à la sagesse. Il s'agit d'y appliquer chaque jour notre cœur. Et le cœur, c'est l'être intérieur. C'est ce qui est au fond de nous qui est concerné et qui a besoin d'être transformé, réformé. Que signifie d'être sage ? Si ce n'est savoir comment obéir au commandement de Dieu, savoir comment vivre selon sa volonté. Et la sagesse, c'est tout un processus. C'est au fil des jours que notre cœur deviendra plus sage, au fur et à mesure que nous comptons nos jours. Compter nos jours, c'est considérer nos priorités. C'est appliquer le temps que nous avons aux choses réellement importantes. C'est refuser de gaspiller son temps, de le perdre dans des futilités. L'être humain ne peut pas changer sa condition mortelle, mais il peut changer sa manière de la vivre. Et c'est bien le Seigneur qui doit nous apprendre à bien compter nos jours, parce que nous n'avons pas cette sagesse en nous. Quelles sont tes priorités dans la vie? Qu'est-ce qui est déjà planifié sur ton agenda? Tu as peut-être déjà planifié des temps en famille, peut-être tes vacances à Noël, ou bien tout simplement le prochain film que tu vas voir. Ton agenda est peut-être déjà rempli de rendez-vous, de réunions, de tâches à faire. Et dans tout cela, il n'y a rien de mal en soi. Alors, dans ce même élan de planification, as-tu prévu un temps avec Dieu ? As-tu mis dans ton agenda que tu avais rendez-vous avec Dieu, tel jour à telle heure ? Peut-être qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous en sommes là. Nous en sommes à devoir poser des rendez-vous avec Dieu. Je suis conscient que nous n'avons pas tous le même emploi du temps dans cette salle. Mais nous sommes tous responsables du temps que Dieu nous accorde. Et puisque nous sommes dans cette période de rentrée, où l'activité redémarre de plus belle, j'aimerais insister un peu plus sur la prière comme priorité de notre vie actuelle. J'ai vu que c'était un thème que vous aviez abordé lors de votre journée de rentrée. Et si vous pensez que c'était plus facile autrefois, écoutez plutôt l'aveu de ce pasteur du 19e siècle. Je voudrais travailler moins et prier davantage. Mais travailler, lire, écrire, parler, tout cela est plus facile que prier. Et peut-être que vous faites le même constat. Dans le Nouveau Testament, j'ai relevé deux versets significatifs qui font le lien entre la gestion du temps et la prière. Le premier verset concerne les couples mariés. 1 Corinthiens 7, verset 5. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes, en plein accord l'un avec l'autre, renoncer pour un temps à vos relations conjugales, afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Nous parlons de sexualité ici. Et vous voyez l'ordre des priorités. Ce n'est pas une obligation, mais si un couple marié désire prier davantage, il sait quoi faire d'après ce verset. Le deuxième verset nous concerne tous. Dans 1 Pierre 4, 7, nous lisons « La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée, en faisant preuve de modération, afin d'être disponible pour la prière. » Nous retrouvons ici l'idée de vie équilibrée, de modération, somme toute l'idée de sagesse. Et ici, ce n'est pas seulement parce que notre vie est brève, mais parce que la fin de toute chose est proche. Et la fin de toute chose désigne la fin du monde actuel, au moment où le Christ reviendra. Si le Seigneur devait revenir à cet instant pour nous juger, nous serions peut-être bien embarrassés. Alors mon encouragement cet après-midi, c'est que nous puissions mener une vie équilibrée afin d'être disponibles pour la prière. Et je trouve que ce verset, tiré de 1 Pierre, est un bon test pour savoir si ma vie est effectivement équilibrée ou non, si je ne fais pas trop de choses, si je suis assez disponible ou non pour la prière. Alors j'aimerais aussi te poser la question, et toi, es-tu disponible pour la prière ? Gérer son temps avec sagesse, bien compter ses jours, vivre pour ce qui compte vraiment, c'est tout un programme. Consacrer du temps à un ami, à ses parents ou à son enfant, c'est une manière de l'aimer. Vous êtes d'accord avec moi ? Passer du temps avec Dieu en le priant, c'est une manière de l'aimer. Nous avons vu jusque-là que la colère divine est un sujet très sérieux, puisqu'elle est en lien avec la brièveté de notre vie. Et puisque nous devons prendre Dieu au sérieux et le craindre, la meilleure manière de gérer notre temps, c'est de le faire avec sagesse. Et comme exemple, j'ai évoqué à l'instant la place de la prière dans nos priorités. Alors il nous reste à examiner une troisième considération. Toute notre vie dépend de la grâce de Dieu. Avez-vous déjà expérimenté la colère d'un de vos proches ou de vos amis? Avez-vous déjà expérimenté le fait que quelqu'un vous en veuille? Qu'avez-vous ressenti? Sans doute un sentiment désagréable. Cela affecte notre quotidien, nos pensées, peut-être même notre appétit. Cela nous rend tristes. Et au fond de nous, nous ne désirons qu'une chose, pouvoir nous réconcilier avec cette personne. Après avoir reconnu la colère justifiée de Dieu, Moïse en appelle à sa grâce. Verset 13. « Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusqu'à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. » Au verset 13, le ton est celui de la supplication. La prière prend une tonalité de plus en plus personnelle. Moïse demande avec humilité au Seigneur de revenir vers ses serviteurs. Et le terme serviteur indique la relation que Moïse souhaite avoir avec Dieu. Une relation de soumission, d'obéissance. Et en même temps, il ne peut s'empêcher de formuler sa plainte. Jusqu'à quand ? Parce que sans Dieu, la vie serait trop insupportable. Elle serait trop insupportable si Dieu faisait constamment peser sur nous le poids de sa colère. Si nous avions constamment le sentiment qu'il est en colère contre nous. Aie pitié de tes serviteurs. Il faudrait littéralement lire « Repens-toi ». Voyez la force de ces mots. Dieu doit-il se repentir de quoi que ce soit? Non, évidemment. Ici, c'est l'idée que le Seigneur puisse se détourner de sa colère. C'est l'idée que le Seigneur change d'avis au sujet d'homme pécheur et qu'il fasse grâce, qu'il pardonne. Et cet appel à la grâce de Dieu parcourt cette dernière strophe jusqu'au dernier verset. Au verset 17, nous lisons « Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur. » Nous ne pouvons pas nous passer de la faveur de Dieu. Parce qu'il vaut mieux pour nous que Dieu soit de notre côté que contre nous. Et puis il y a ce verset 14 qui nous dit « Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie, plein d'allégresse tout au long de nos jours. » Combien nous avons besoin de savoir que Dieu nous aime, chaque jour, sans exception. Malgré toutes nos fautes, Dieu nous aime. Et dans un autre psaume, nous lisons que l'amour de Dieu ou la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Cette requête de Moïse exprime sa foi en un Dieu d'amour. Moïse sait que Dieu peut se mettre en colère, mais il sait aussi que Dieu est plein d'amour. Et cette requête, nous pouvons nous l'approprier. Elle concerne tous les matins. Et le verbe rassasier évoque la satisfaction, comme après un bon repas. Et dans un sens figuré, il s'agit d'être nourri jusqu'à être rassasié de l'amour de Dieu. Tout à l'heure, je parlais de la prière. Et ici, nous voyons que cette connexion à Dieu est vitale, aussi vitale que manger, jusqu'à en être rassasié. Il y a un combat. Il y a un combat que peut-être vous menez chaque matin. D'abord, après la sonnerie du réveil, il faut se lever. Et c'est parfois très, très difficile. Ensuite, vous devez peut-être combattre des pensées négatives. À peine réveillé, vous êtes assailli par les soucis de la veille ou par les préoccupations de la journée ou ce que vous allez faire ou ce que vous allez faire à manger. Et puis, il y a un autre combat, mais lié à celui-là. Depuis l'existence des smartphones, tous les matins, votre bras fait automatiquement un geste pour attraper votre téléphone et pour vérifier qui vous a écrit, quelles sont les nouvelles du jour. Mes amis, si vous vivez ce combat que je viens de décrire, vous pouvez prier comme Moïse. Rassasie-nous tous les matins de ton amour. Et quand l'inspiration vous manque dans la prière, vous pouvez lire un psaume. Et immédiatement, vos pensées sont orientées vers Dieu et non plus vers vous-même ou vers ce qui vous préoccupe. Et si vous lisez attentivement la suite du verset 14, cela a une influence sur votre humeur. Nous crierons de joie, pleins d'allégresse. Oui, si nous sommes rassasiés de l'amour de Dieu, nous crierons de joie. Imaginez que vous criez de joie dès le matin. Alors certains sont en train d'imaginer. Si tu es réconcilié avec le Seigneur, si tu as reçu son pardon pour tous tes péchés, tu as tous les matins une raison de te réjouir. Et même au milieu des épreuves, tu peux t'accrocher à cette réalité que le Dieu, le Tout-Puissant, te regarde avec faveur. Même lorsque tu pèches ou que tu ne cesses de répéter le même péché, tu peux implorer son pardon. Tu peux revenir à celui qui fait grâce. Parce que Jésus a payé pour toi et que tu le crois, Dieu le Père peut te regarder avec faveur. Notre vie est brève et souvent difficile ici-bas. Mais c'est précisément la grâce de Dieu qui illumine nos journées. Nous avons besoin de la grâce de Dieu tous les jours. J'en reviens à mon slogan de départ, YOLO. Vous vous en souvenez ? Oui, nous ne vivons qu'une fois. Mais cela ne peut pas être un argument pour vivre n'importe comment. À bien des égards, nous pouvons nous approprier la prière de Moïse. Elle nous rappelle que derrière la brièveté de la vie, c'est la cause qui doit nous rappeler à l'ordre. Dieu est en colère parce que nous péchons. Malgré sa brièveté, notre vie a du sens quand elle est vécue selon les voies de Dieu. Et nous avons besoin d'être enseignés par Dieu pour devenir sages. Et nous avons besoin de sa grâce chaque jour dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous vivons. La vie est courte, mes amis, je me répète, mais Dieu est éternel et il veut nous offrir la vie éternelle. Et cette vie que Dieu donne est pour tous ceux qui acceptent l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, comme seul moyen de salut, comme seul moyen d'échapper à la colère à venir. Nous n'avons qu'une seule vie et la seule qui en vaille la peine et celle que nous pouvons vivre avec Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à fermer les yeux et à prendre le temps simplement de répondre à Dieu par rapport à ce message, par rapport à sa parole. Prenez le temps de vous placer devant Dieu. Et si d'une manière ou d'une autre, Dieu vous a interpellé sur quelque chose, priez à ce sujet. Seigneur, nous proclamons dans cette Église que tu es notre Dieu. Et tu es Dieu de toute éternité. Et lorsque nous observons notre propre vie, nous nous sentons tellement petits. Notre vie est tellement éphémère. Et pourtant, tu y accordes tellement de prix. Merci pour toutes les vies que tu as rachetées dans cette salle. Merci pour la vie éternelle que tu nous donnes. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont encore ce pas à faire, de placer leur confiance en Jésus-Christ, de faire de lui leur Seigneur, leur Sauveur, de le suivre jour après jour. Et aide-nous, tous autant que nous sommes, à pouvoir marcher à ta suite, à te craindre comme tu le mérites, Seigneur, à pouvoir être attentif à notre manière de gérer notre temps. Et tellement nous avons besoin de ta sagesse pour ça. Mais par-dessus tout, Seigneur, accorde-nous ta grâce jour après jour, pour que nous puissions tenir devant toi, pour que nous puissions vivre avec ce regard favorable de ta part. Oh, merci. Merci parce que tu nous regardes favorablement. Non pas à cause d'une quelconque bonté en nous, mais uniquement parce que Christ a tout accompli. Nous te louons pour cela, parce que tu nous permets de vivre sous ton regard et nous voulons mener cette vie de la meilleure façon qui soit, pour que tu en sois glorifié. Oui, à toi seul soit la gloire. Amen.